Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Emmanuel Duteil, question d'Éric en Moselle. Si Tavares est si fort que ça, pourquoi ne crée-t-il pas sa propre entreprise ?
Il l'a créée ?
Ah, oui, il l'a créé avec une fusion en héritant d'entreprise. Alors, il faut voir que dans le secteur de l'automobile, si on met de côté Elon Musk, il n'y a quasiment pas d'exemple sur ces 40 dernières années de groupes automobiles qui se sont créés, parce qu'y compris les constructeurs chinois qui demain vont dans tous les cas laminer, il n'y a pas gagné longtemps 36 millions d'euros en même temps, mais qui vont laminer l'industrie automobile européenne, sont des vieilles entreprises qui étaient déjà plutôt dans le secteur. Donc c'est très compliqué de créer son entreprise de cette taille-là, mais il pourrait très bien créer à côté une start-up dans un autre secteur. Mais on ne va pas interdire à des patrons de diriger des entreprises qui existent depuis...
Je reviens sur votre phrase un peu défaitiste. Notre Stellantis, pas national, mais dont on est si fier parce qu'il est si fort, vous dites que malgré tout, il va se faire laminer par les concurrents chinois ?
Là, il faut voir que ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est une révolution comme on ne l'a jamais vue. Il s'était passé exactement la même chose au niveau du pneu. Pendant très longtemps, on fabriquait des pneus au Japon, ici, en Allemagne, et les Chinois sont arrivés, tous les pneus d'entrée de gamme ont quasiment disparu, et il y a bien que Michelin, Bridgestone, Continental, qui s'en sortent aujourd'hui avec des pneus à forte valeur ajoutée. Ça a pris un peu de temps. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que les Chinois, ils n'ont pas attendu que nous, on investisse dans l'électrique pour investir. Ça fait 20 ans qu'ils y sont. Ils ont toute la chaîne de valeur, des terres rares, ce qui est indispensable pour faire et fabriquer un moteur électrique. Ils ont un réseau de bornes dans les grandes métropoles bien mieux développé aujourd'hui que nous. Et il y a des géants, genre BYD et tout ça, qui aujourd'hui sont en train d'inonder les ports européens de leurs voitures. Les voitures sont en train d'arriver, là, elles sont sur les conteneurs et ils vont inonder avec des voitures électriques qui seront beaucoup moins chères que les nôtres et qui sont par ailleurs pas du tout des voitures bas de gamme. Ça n'a plus du tout la même image. Il se passe exactement la même chose que quand les marques japonaises sont arrivées sur le marché américain dans les années
80. Gaël Mac, y a-t-il une entreprise prospère de l'importance de Stellantis où l'écart de rémunération entre le patron et les salariés est exemplaire? Je crois qu'autrefois, on disait, JP Morgan disait, monsieur de la banque Morgan disait, l'écart doit être de 1 à 20. Alors là, on n'y est plus du tout.
On est
de 1 à 300.
Mais en tout cas, il y a une entreprise prospère en France où l'écart est certainement plus faible, c'est Orange. Je pense que Orange gagne de l'argent. Orange est une très grande entreprise. Orange est une entreprise public, enfin, dont l'actionnaire principal est public.
Et donc, le patron est obligé d'avoir son salaire plafonné.
Est à 450 000 euros, je crois que c'est ça le plafond, hein, en tout cas, voilà. Et donc, du coup, je pense que dans ce cas, je ne sais pas si c'est exemplaire et le mot, mais en tout cas, oui, là, je pense qu'il y a un écart, en tout cas, entre 450 000 et 36,5 millions.
Et est-ce que le patron d'Orange fait moins bien son boulot parce qu'il est payé en centaines de milliers et non pas en millions d'euros?
C'est toujours une question. Effectivement, juste après, par exemple, juste après le départ de Carlos Ghosn, c'était Jean-Dominique Sénard qui est arrivé chez Renault. Avec Thierry Bolloré, c'est ça ?
Exactement.
Et ils étaient payés moins de 1 million chacun. Ils étaient payés en dessous du million. Est-ce qu'ils ont beaucoup moins bien fait leur travail ?
Alain, qui a fixé le montant de cette rémunération ? Carlos Tavares lui-même, point d'interrogation. Ça, c'est souvent... Le reproche qui est fait au patron, c'est qu'approuver ma décision que
j'impose. Officiellement, c'est le comité des rémunérations, mais c'est un dialogue avec le dirigeant. Mais la responsabilité...
Le dirigeant tout puissant, tout influent.
Le dirigeant qui arrive avec ses résultats, ses 18 milliards de bénéfices en 2023, et avec ses deux actionnaires principaux, qui sont la famille Agnelli d'un côté, la famille Peugeot de l'autre, et l'État français pour une partie minoritaire.
On ne sait pas si le gouvernement français, d'ailleurs, a...
Ils se sont abstenus. L'État, c'est la BPI, en fait.
Ils ont 6% du capital et ils se sont abstenus.
Qui aura le courage de faire une loi pour plafonner les plus hauts salaires de France ?
Alors. Si on n'est pas en Union soviétique, je pense que pour une entreprise privée, c'est compliqué. Le moyen, ça serait par l'imposition plutôt que par le plafonnement des rémunérations. Ça, je pense que dans le cadre d'entreprises privées, ce serait compliqué.
Par ailleurs, on ne peut pas empêcher une entreprise privée de payer un salarié privé.
Si les propriétaires de cette entreprise sont d'accord pour que leurs dirigeants aient ce salaire et cette rémunération, bon...
Alors, c'est, la loi...
Ce n'est pas de l'argent public.
C'est la loi. Dans le secteur public, vous l'avez dit, c'est plafonné à 450 000 euros, mais ça a une conséquence quand même, c'est que viennent à la tête des entreprises publiques des gens qui ont déjà gagné de l'argent ailleurs dans une entreprise privée. C'est le cas, par exemple, de Luc Rémont, qui était chez Schneider.
Et c'était
avant.
Le cas aussi de Stéphane Richard.
Voilà. Ou de Christelle Hennemann, qui est maintenant la patronne.
Donc, en fait, ça a une vertu apparente, immédiate, mais il faut aller creuser un peu.
Alors par contre, François Hollande, la taxe à 75% sur les patrons qui gagnaient plus de 1 million d'euros.
C'est ça. Alors, il faut par ailleurs rappeler que, par exemple, comme le siège de Stellantis est aux Pays-Bas, si nous faisions une loi en France de plafonnement des rémunérations, ça ne fonctionnerait certainement pas pour des sociétés qui ont leur siège social à Londres ou à Amsterdam.
Après, la plupart des grandes entreprises françaises ont quand même leur siège en France. Il y a un homme dont on n'a pas parlé, qui d'habitude truste le haut du tableau des plus fortes rémunérations, c'est Bernard Charles, le patron de Dassault Aviation, alors qui est l'une des plus belles pépites françaises, qui est sûrement totalement inconnue des téléspectateurs, mais qui permet notamment à toutes les entreprises de fabriquer les produits.
Non, c'est Dassault Systèmes.
Dassault Systèmes, c'est ça que je voulais dire. Bon, souvent, il est très, très, très haut dans le classement la plupart des
patrons. Il y a d'ailleurs des financiers qui gagnent des dizaines de millions d'euros, comme cela.
Des banquiers d'affaires,
dont on ne parle pas.
Qui sont rémunérés à la commission, ça ne s'appelle pas une commission.
Des gérants de fonds d'investissement ou de hedge funds qui sont payés plusieurs dizaines de millions de dollars. Oui, il y en a.
Et dont on ne parle pas et qu'ils n'ont pas publié leur...
Dont on ne parle pas. Si, leurs rémunérations sont un jour ou l'autre publiées, mais bon, ça ne fait pas le même effet. Ça n'est pas en France, souvent.
Bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces rémunérations qui interrogent, comme on dit, 36 millions d'euros. Et on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée, à demain.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.